C'est un paradoxe de parler de pluie alors qu'il fait tellement beau dehors. Hein? Si on était en Bretagne ou peut-être même en Auvergne d'où nous venons, on pourrait peut-être parler de soleil, ça nous égayerait à l'intérieur du local, sachant qu'il pleut dehors. Mais là, ce n'est pas le cas, il fait un magnifique soleil. Et donc, une pluie d'épreuves dans la vie de quelqu'un, peut-être vous l'avez eu, sur les paquets de sel qui sont vendus en Amérique, ils ont une certaine marque de sel et ils la mettent toujours en bas du paquet. Quand il pleut, il tombe des cordes. Et l'idée, c'est que quand il pleut vraiment. Et on pourrait ajouter, on pourrait donner ce dicton parfois aux difficultés qui surviennent. Quand l'épreuve vient, elle vient vraiment. Généralement, les gens ne disent pas « J'ai quelques gouttelettes d'épreuves dans ma vie, mais vraiment rien. C'est même pas la peine que je vous en parle. J'ai des épreuves, mais elles sont tellement légères que je les porte facilement. » Le propre d'une épreuve, c'est que c'est difficile à porter. Et quand elles se succèdent les unes après les autres, au début, première épreuve, on dit « Bon, mais c'est le hasard, ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre, c'est tombé sur moi, c'est pas très grave. » La deuxième épreuve, attends, ça commence à bien faire, ça commence à... La loi des moyennes ne va pas très bien, quelqu'un n'a pas bien fait ses mathématiques, ça fait deux que j'ai. Quand c'est 3 et 4 et 5, on dit « Attends !» Et à la fin, on dit « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ?» La pluie des épreuves. Et on va voir dans la vie de quelqu'un qui a vécu à peu près en même temps qu'Abraham, donc environ 2000 ans avant Jésus-Christ, un homme qui est passé par tant d'épreuves, une telle pluie, un tel torrent d'épreuves, un tel déluge d'épreuves, qu'on en parle encore aujourd'hui, tout le monde en France le connaît, tous ceux qui ont une culture chrétienne connaissent le personnage qu'on appelle Job. Les gens qui ne le connaissent pas, qui n'ont pas lu son histoire, savent qu'il existait. On a même un dicton en français, un tel il a la patience de Job. Job passe pour quelqu'un d'extraordinairement patient. Et on connaît sa patience à cause de sa réaction dans ses épreuves. Mais Job n'est pas le premier, ni le dernier, de loin pas, à avoir été éprouvé. Il se peut qu'aujourd'hui même, alors qu'il fait soleil dehors, que beaucoup de gens sont contents, que beaucoup de gens n'ont pas le moindre souci dans leur vie, ils profitent pleinement, que pour vous, aujourd'hui, s'il pleuvait, ce serait pareil, vous êtes éprouvés, ça fait orage dans votre cœur, vous êtes troublés, vous êtes même peut-être angoissés, et il y a une accumulation d'épreuves dans votre vie, et vous dites, je n'en vois pas la fin, je ne sais pas pourquoi ça tombe sur moi. J'aimerais bien partager avec d'autres, mais il me semble que toutes les épreuves connaissent mon adresse. Elles se sont toutes pointées chez moi. Et je me demande si d'autres gens ont été éprouvés autant que je le suis. Ça peut être des épreuves dans sa santé. Ça peut être des épreuves dans sa famille. Ça peut être des épreuves dans sa tête. Il y a des gens qui se lèvent le matin et qui disent « Je n'ai rien à faire. Personne ne compte sur moi. Si je devais mourir dans mon logement, je ne sais pas combien de temps passerait avant que quelqu'un s'en aperçoive. J'ai l'impression de n'avoir aucune valeur. J'ai vécu au-delà de mon temps d'utilité. » Nos maisons de retraite sont remplies de gens qui disent « Je crois que le bon Dieu m'a oublié. » Je ne sais pas pourquoi je suis là. Je ne sers à rien. Je suis inutile. Ça, c'est une épreuve aussi. Une épreuve morale, psychique. Alors, Job, tout n'a pas été épreuve pour lui. Attention. Il a vécu en tant d'épreuves, mais globalement, sa vie a été absolument merveilleuse. La première partie et la seconde partie. Juste entre ces deux grandes parties, il y a eu une pluie d'épreuves. Mais sa vie commence plutôt bien, ça s'ouvre très bien, dans le chapitre 1er et 1er verset, il y avait dans le pays d'Utz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Un homme bien sous tout rapport, correct, droit, il lui naquit 7 fils et 3 filles. heureux en famille, en ménage. 10 enfants, normaux, bien constitués, bien sympathiques, c'est une richesse. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes, un très grand nombre de serviteurs, et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Du prestige, de la richesse, de la prestance, tout va bien pour Job. Tout va bien. Et depuis longtemps. C'est beau d'être riche. C'est encore plus beau quand on est riche et admiré. Car tous les riches ne sont pas admirés. Et toutes les personnes qu'on admire ne sont pas riches. Mais cumuler les deux, avouez quand même que c'est une chance. Mais cet homme, tout riche et prestigieux qu'il était, était aussi humble et extrêmement attentionné. Parce que la Bible dit que ses fils et ses filles, donc, donnaient des festins les uns aux autres, à 10, ça pouvait faire une belle tablée. Et donc, les 7 fils faisaient des fêtes, et chaque fois, ils invitaient leurs 3 sœurs à venir boire avec eux, avoir un bon moment, manger, bien manger. Et verset 5, quand ils avaient fini leur festin, le papa appelait ses fils auprès de lui et leur posait des questions. Pendant que tu as fait la fête. Alors on peut imaginer toutes les questions qu'il a posées. Est-ce que tu as trop bu? Est-ce que tu as perdu le contrôle de ta langue? Est-ce que tu as dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire? Est-ce que tu as eu un geste déplacé, mon fils? Dis-le-moi. Déjà, les fils qui ont chacun une maison et qui ont une famille, c'est déjà incroyable qu'ils acceptent que leur papa leur pose de telles questions et qu'ils répondent honnêtement. Écoute, papa, pas que je sache, hein, on a bien fêté, mais ça s'est fait en toute bonne camaraderie avec les frères et les sœurs. Non, je ne vois pas. Alors papa disait, peut-être tu n'as rien fait, mais au cas où tu aies fait ou dit quelque chose, au cas où tu aies eu une pensée déplacée ou une parole mal appropriée, je vais quand même faire un sacrifice comme si tu avais péché, histoire que Dieu te pardonne si jamais il y a eu un débordement pendant votre temps de fête. C'est impressionnant. Normalement, des gens riches disent « Je suis riche parce que je suis bon. Et rien ne peut m'arriver. Et puis, je suis considéré. Je ne me remets pas en question, puisque personne ne me remet en question. » Mais Job se remettait en question. Puis, il voulait surtout qu'entre lui et Dieu, ça se passe bien. Il ne voulait pas que Dieu ait la moindre raison de le condamner, de le reprendre, et puis il agissait comme un père absolument merveilleux avec ses 10 enfants. Et les 10 enfants étaient extrêmement bien éduqués. Pouvoir éduquer ainsi 10 enfants, pour avoir des rapports de ce genre avec eux, pouvoir parler à cœur ouvert régulièrement avec tous les enfants et avoir des réponses honnêtes et fraternelles et respectueuses, c'est quand même extraordinaire, vous ne trouvez pas? C'est comme ça que Job se comportait. Mais il se comportait tellement bien, avec tant d'honnêteté, c'était vraiment pas un hypocrite, que Dieu lui-même avait remarqué cet homme, intègre entre tous. Et la Bible nous donne une situation, on va dire, surréelle. C'est-à-dire qu'on voit Satan, l'ennemi de Dieu, Lucifer, l'ange qui a dit « Je veux ressembler à Dieu, je veux qu'on m'adore » et que Dieu a dû précipiter hors de sa présence. La barrière entre eux est totale et définitive. Pourtant, Lucifer a gardé ses propriétés d'ange, d'ange chérubin. Enfin, il n'était pas gardien de la présence de Dieu, mais il avait accès à la présence de Dieu. Il venait parler avec l'Éternel, il n'y avait pas d'amitié entre eux, ne pouvait pas, mais il y avait conversation, il y avait échange. Et le Seigneur dit à Lucifer, celui qui s'était détourné de lui, celui après l'avoir connu, qui s'est rébellé contre lui, il dit, est-ce que tu vois quand même, il y a un homme sur la terre qui lui me craint, qui lui est intègre, contrairement à toi bien entendu, qui lui marche droit. J'ai rien à redire. C'est Dieu qui témoigne. J'ai rien à redire. Cet homme est intègre, cet homme est droit, Cet homme réussit spirituellement, il va bien. Et franchement, je suis fier de lui en quelque sorte. Est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Il n'y en a pas deux comme lui sur la terre. Alors Lucifer, s'il avait été normalement constitué, et pas le Satan qu'il est devenu, pas l'accusateur qu'il est devenu, il aurait pu simplement dire, ben oui, c'est vrai que c'est un homme admirable, ça je te l'accorde. Mais pas Satan. Évidemment pas. Il a l'esprit tellement tordu par son choix personnel. Qu'il dit, oui, mais bon. Il est intègre, il va bien, ça je te le concède, mais en fait, en quelque part, tu l'as acheté. Tu as acheté sa loyauté. Eh oui. Tu dis qu'il t'est fidèle, tu dis qu'il t'aime, mais entre nous, on sait bien que, en fait, tu lui accordes beaucoup de richesses et, bon, mais il te rend la monnaie de la pièce, quoi. Voilà. Il te donne du respect parce que tu lui donnes des biens matériels. Je soupçonne ici qu'il y a un marché entre vous. C'est comme ça qu'il traite l'éternel Satan. C'est comme ça qu'il lui parle. Mais oui, mais il n'a aucune raison de t'être infidèle. Regarde comment tu le gâtes. Mais. Et là, la provocation de Satan, si tu lui enlèves le bien que tu lui as donné, il te maudit en face, c'est garanti. Moi, je dis, il te maudit en face si tu lui enlèves ce qu'il a. Cet homme-là, ben oui, tout va bien pour lui. Bien sûr, il peut te prier. Mais tu lui enlèves tout et c'est terminé. Qu'est-ce que Dieu va dire? Ah non, moi je sais toute chose et je sais qu'il ne me maudira pas. Qu'est-ce qu'il dirait Lucifer? Essayons pour voir. Dieu savait où il voulait en venir. Dieu donc, et on est, quand on lit ça pour la première fois, on dit, mais qu'est-ce qui va se passer là? Dieu dit, d'accord, tu peux tout lui enlever et je suis sûr qu'il me restera fidèle. Alors, on est déchiré entre l'admiration pour la confiance que l'Éternel fait à Job, lui dire à Satan, s'il perd tout, il me restera quand même fidèle, j'en suis convaincu. Comme on dirait aujourd'hui, je suis prêt à parier là-dessus. Mais on tremble pour Job quand même. On se dit, le Seigneur, il est bien positif, il est bien optimiste, mais est-ce que Job va tenir le choc? Surtout que l'Éternel, ni Satan, ni l'Éternel ne va dire à Job, est-ce que tu es d'accord qu'on fasse une expérience sur ton dos? Job, lui, n'est pas au courant. Et c'est bien là l'épreuve. C'est la grande partie de l'épreuve, c'est que Dieu et Satan sont en train de discuter sur l'intégrité de cet homme, et cet homme n'est pas au courant. S'il avait été mis au courant, tiens bon, par exemple, pendant 6 mois, tu vas vraiment passer des vertes et des pas mûres, mais si tu tiens ferme, ça ira beaucoup mieux après. Bon, on pourrait dire, ok, mais lui ne sait pas. Il ne sait pas. Dans la journée, le lendemain, Satan n'a pas traîné, hein, le lendemain, il est dépouillé de toutes ses possessions. C'est la pluie d'épreuves. Premièrement, sont les bœufs et les ânes qui sont enlevés par les Sabéens, c'est un peuple d'à côté, en Orient, des Yéménites, versets 14 et 15. Tout de suite après, dans la même journée, le feu du ciel tombe pour détruire les brebis et les serviteurs qui les gardent. Et par bonheur ou par malheur, il en échappe toujours un des domestiques de ces exploitations pour venir rapporter la nouvelle. Tous les autres périssent. Sur cela, dans la même journée, les chameaux sont enlevés par les Chaldéens. Et pour terminer, les 10 enfants qui font la fête chez le frère aîné en vent d'Orient vient et frappe les 4 coins de la maison qui s'effondrent et les 10 enfants périssent. Il perd en un jour toutes ses possessions et tous ses enfants. En un jour. Et ce qui est particulièrement terrible dans l'histoire, Satan s'est arrangé, parce que c'est lui qui a provoqué tout ça, Satan s'est arrangé pour que 2 des phénomènes paraissent venir de Dieu lui-même. Parce que le feu du ciel et le vent qui vient, qui frappe les 4 coins de la maison, ce n'est pas des ennemis, des gens qui ont volé à Job, qui lui ont volé. On dirait que c'est Dieu lui-même qui s'est acharné contre Job. Et Job, il n'a aucun moyen de savoir que c'est Satan qui est derrière ça. Il peut conclure que c'est Dieu lui-même qui me frappe. alors qu'il n'a aucune raison de le faire. À sa place, on aurait pensé comme lui. Et nous, on aurait dit, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Une pluie d'épreuves. Quelle est sa réaction? Admirable, verset 20. Quand il sait tout cela, il se lève, il déchire son manteau, se rase la tête, c'est une pratique orientale quand on entre en deuil, on déchire son vêtement, on se rase la tête, il se jette par terre, il se prosterne et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans le sein de la terre, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Quand on lit ça, on dit, ah d'accord, ça c'est Job, mais c'est pas moi. Quel héros cet homme? On demande s'il est même humain. Quelle réaction? Bon, il manifeste sa tristesse. Il n'a pas dit, youpi, voilà, non. Il montre tous les signes, il a toute l'attitude d'un deuil profond. Il ressent toute la tristesse d'avoir perdu ses 10 enfants, et 10 enfants dont il était légitimement fier. Il accuse le coup de la perte de toutes ses possessions. Mais il réfléchit. Comme vous et moi, nous devons réfléchir. Quand on perd quelque chose, quand on perd une situation, quand on... Vous savez, si cette bulle spéculative dont on parle dans les nouvelles se réalise, il y a beaucoup de gens qui vont perdre toutes leurs économies, l'argent qu'ils ont mis de côté pour la retraite, ça va disparaître en plein air. Ça va partir. Ça va s'effondrer. On en parle en ce moment, encore d'un crash qui pourrait faire pâlir celui de 2008 et celui de 29, enfin quelque chose de terrible. Nous ne savons pas où le monde va. Mais, imaginons que ça arrive et que vous vous réveillez et que les quelques économies que vous avez mises de côté, sur lesquelles vous comptiez quand même un peu, se sont volatilisées. Que dire? C'est injuste. Lui, il perd tout et dit, au fond, quand je suis né, je n'avais rien, même pas de vêtements. Et quand je mourrai, tout ce que j'ai pu accumuler, je laisserai tout, je n'emporterai rien. Je mourrai comme je suis né, sans rien. Alors, Dieu m'a fait bénéficier d'un grand nombre de biens matériels, d'un grand confort, pendant des dizaines d'années, alors que je n'y avais pas spécialement droit. Il décide de tout m'enlever. De toute façon, c'est lui qui m'a tout donné. Il peut reprendre ce qui est à lui. Moi, je n'avais rien en naissant. Je n'aurai rien en mourant. Où est le problème? Et c'est comme ça qu'il réagit. Et il n'attribue rien d'injuste à Dieu. Il a dit, c'est pas injuste. C'est lui qui m'a donné. Si quelqu'un vous donne quelque chose, enfin, il vous le donne, il vous le prête, par exemple, il dit, j'ai besoin de nouveau, nous, on a des gens qui nous prêtent des outils pour notre travail. Quelquefois, ils viennent, est-ce que je peux reprendre mon outil? Écoutez, c'est votre outil, merci de l'avoir prêté. Bien sûr, vous pouvez le reprendre. Bien sûr! Pourquoi on s'indignerait? Il dit, tout m'a été prêté, tout m'a été repris par celui qui me l'a prêté. C'est juste. Il n'y a pas d'injustice là-dedans. Je ne peux pas me plaindre. J'en ai bien profité. Ça n'est plus là. Je n'y avais pas. J'étais pas le propriétaire. Pourquoi me plaindrais-je de celui qui l'a tout repris? Bon. Satan revient quelque temps plus tard. Et le Seigneur dit, bon, l'autre fois, quand on a parlé, j'ai vu ce que tu as fait à mon serviteur. Il n'a plus rien. Qu'est-ce qu'il a répondu? Hein, tu as vu? Il reste intègre. Je t'avais dit qu'il serait intègre. J'étais sûr qu'il resterait intègre. Oh, oui, mais... Alors ça y est, ça recommence, l'accusateur. Oui, mais... Comme on dit en français, quand la santé va, tout va. Hein? Quand vous avez souhaité la bonne année, cette année, qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Bonne année et surtout bonne santé. On n'a pas toujours bonne santé. Si on avait bonne santé, on ne mourrait jamais. Mais bon, on souhaite avoir une bonne santé le plus longtemps possible. C'est certain. Mais nous sommes tous destinés à la maladie et à la mort, un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre. Il dit de toute façon, ce qu'un homme il a, il donnera pour sa peau. Bon, ses biens matériels, même ses enfants, ça c'est en dehors de lui, de son corps. Il n'a pas une douleur physique là avec ça. Mais si tu touches son corps, s'il devient malade, s'il souffre dans son corps, ça c'est certain, je te garantis, dit Satan, il te maudira en face, c'est certain. On sent l'hésitation de l'Éternel. Il dit, mais tu m'excites à le perdre sans motif. J'ai un homme qui me respecte, qui m'aime, on a une bonne communion. Toi, tu as proposé une épreuve, tu as pu réaliser ton épreuve, mon homme est sorti vainqueur, il m'est resté fidèle, et maintenant tu en proposes une deuxième. Mais on dirait que tu veux le tuer. J'ai un homme qui m'aime et tu veux le tuer. Ça, c'est Satan, hein. Il ne peut pas tuer Dieu, mais il veut tuer tous ceux qui aiment Dieu. Il veut les éliminer, il veut les faire craquer, il veut... Voilà. C'est l'accusateur, c'est le destructeur. Tu m'excites à le perdre sans motif. Mais bon, on va jusqu'au bout. Toujours sans rien dire à Job, le pauvre. Et Satan frappe ce pauvre Job avec un ulcère malin. C'était comme des grosses furoncles sur toute la surface de sa peau. Est-ce que vous avez jamais eu des furoncles? Ce genre de horrible abcès, plein de... Excusez-moi, c'est loin d'un repas, mais plein de pu. Et ça casse, et ça coule, et ça irrite la peau, parce que le pu irrite la peau que ça touche. Et il en est couvert de la tête aux pieds. Et la Bible dit qu'il va se mettre dans la cendre. Il va jeter la cendre sur sa tête. C'est vraiment l'image orientale de quelqu'un qui est dans un deuil absolu, qui est dans une atroce souffrance. En plus, les ulcères malins, c'est extrêmement défigurant d'en avoir sur le visage, dans le dos, sur les épaules, sur les bras, sur les jambes, partout. Et il prend un morceau de peau, genre poterie, pour gratter ses abcès, pour laisser couler ce pu, et puis il est dans la douleur, il est défiguré, il est abandonné, il est repoussant, il sent mauvais. Un homme qui était d'un grand raffinement, vivait dans un grand luxe, avait un grand respect de tout le monde, était considéré, le réduit comme ça, à être pire que le plus pauvre des SDF, dans la saleté, dans la pauvreté, dans le dégoût, dans le découragement et dans une profonde et constante douleur. Extrêmement douloureux. C'est peut-être une des pires maladies qu'on pouvait infliger à quelqu'un pour lui faire sentir des douleurs. Il y a des maladies qui sont beaucoup plus graves que ça, mais qui sont indolores ou quasiment. Donc les gens, ils sont très malades, mais au moins ils n'en ressentent pas les effets. Et c'est pas défigurant. Et ils inspirent plutôt la compassion. Mais il y a des maladies qui sont tellement défigurantes que on a pitié de la personne qui souffre, mais de loin, on ne veut pas trop le voir, puisque oula, et puis ça sent, oula, j'espère que vous allez guérir, mais vous imaginez le rejet que Job pouvait ressentir. Et pour couronner le tout, deux épreuves supplémentaires, sa femme lui dit, avec tout ce que tu as reçu, tu restes intègre, maudit Dieu et meurs, regarde comment Dieu te traite. Et toi, tu dis, qu'est-ce que tu dis? Mais la Bible dit, verset 10, Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Bon. Peut-être, qui sommes-nous pour juger? Peut-être Job avait quelques pensées vraiment négatives, hein? D'ailleurs, il les exprime un peu plus tard. Mais sur le coup, devant sa femme qui dit, tu restes intègre, tu conserves ton amour et ton attachement à l'Éternel, mais t'es malade. Mais maudit Dieu, maintenant, ça suffit, quoi. Il t'a frappé, et toi, tu ne réagis pas, et tu dis, voilà, je suis sorti nu de celle de ma mère, je retourne en bas. Attends, mais regarde comment tu es maintenant. Mais maudit Dieu, et puis meurt. Vraiment une femme encourageante. Une fidèle compagne. Il n'y a pas, je vais te soigner. Oh, tu m'as tellement bien occupé de moi. Viens, je vais te soigner. On va mettre. Non, rien, mais maintenant, fini quoi. Meurs, pauvre. Sa femme lui dit ça. Et qu'est-ce qu'il trouve à répondre? Écoute, tu étais bien contente quand j'étais prospère. Et moi aussi, j'étais content. Tu étais bien contente d'avoir les 10 enfants. Et moi aussi, j'étais bien content. On était content de tout ce qu'on a eu jusqu'à présent. C'était bien tout ce que Dieu nous a donné. Et ce bien, il nous l'a donné pendant très longtemps. Ça fait des dizaines d'années que ça va très bien. Là, ça va mal. Ça va très très mal. Mais je t'ai jamais entendu reprocher à Dieu d'avoir fait du bien. Alors, on ne va pas lui reprocher de nous avoir fait du mal. Parce que si on dit, Dieu, tu peux me faire du bien, mais je t'interdis de me faire du mal, ce n'est pas très honnête. Il y a du positif et du négatif, ça vient de Dieu. Alors, souvenons-nous, Job ne sait pas ce qui s'est passé dans le ciel. Il ne connaît pas cette conversation. Il n'a pas entendu le témoignage de l'Éternel à son sujet. S'il avait entendu, peut-être il aurait été ragaillardi. Il aurait compris le sens de son épreuve. Mais là, il ne comprenait rien à cette épreuve. Il ne savait pas. Et comme pour lui, l'idée ne lui avait pas croisé l'esprit que Satan a défié l'Éternel de lui permettre de faire ses épreuves. Il n'en avait pas la moindre idée. Donc pour lui, et qui peut le nier, pour lui, Dieu a tout à coup changé d'avis et commence à taper sur Job sans aucune raison. C'est ce qu'il comprend. Il dit, voilà, Dieu m'a donné fait du bien, maintenant il me fait du mal. Dieu m'a donné beaucoup de bien, maintenant il les a enlevés, mais c'est Dieu. Bon, j'ai bien accepté le bien, il faut bien que j'accepte le mal. Quelle réaction! Mais mes amis, cette réaction de Job, alors que lui est dans l'ignorance de tout ce qui se passe, nous, on n'est pas dans l'ignorance. Nous avons le témoignage. Et quand il tombe sur nous une pluie d'épreuves de ce genre, notre tendance est de dire, et pourquoi moi? Et qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Et c'est pas normal. Et j'en vois d'autres qui vont moins bien que moi, mais alors ils ont beaucoup moins d'épreuves que moi. Alors Dieu, il faut qu'il révise un peu son truc là, parce que ça va pas, c'est injuste. Au lieu d'avoir ce genre de réponse, à cause du témoignage de Job, à cause de la réaction de Job, à cause de ce scénario, nous pourrions penser peut-être que Dieu nous a trouvés fidèles et qu'il a dit à notre adversaire et que l'adversaire a dit « Fais-lui passer par une épreuve et on verra s'il reste fidèle. » Nous pourrions prendre ce récit pour nous et dire peut-être il y a beaucoup plus que simplement une épreuve. Peut-être ce n'est pas Dieu qui s'acharne sur moi parce que ça lui fait plaisir. Peut-être le Seigneur permet que je sois testé pour mon bien et pour sa gloire. C'est un scénario à retenir. C'est une théorie qu'il faudrait considérer. Ce n'est pas forcément que j'ai fait quelque chose contre Dieu. D'ailleurs, beaucoup de chrétiens, quand les épreuves viennent, soit ils se disent eux-mêmes, soit leurs bons amis chrétiens leur disent, « Hein? Tu passes par des épreuves, n'est-ce pas? Bah, j'ai pitié de toi, hein, tu sais. » Mais tu devrais quand même voir peut-être dans ta vie, hein, s'il n'y a pas quelque chose que... Moi, je soupçonne que si tu souffres comme ça, c'est qu'il y a un truc. Tu ferais bien de... Hein? Parce que c'est pas normal qu'on souffre comme ça. Donc, il doit y avoir du péché dans ta vie. Il y a des pans entiers du mouvement évangélique que si vous souffrez, tout le monde conclut que vous avez commis un péché. Et maintenant, vous êtes en train de le payer. Parce que Dieu vous le fait payer. Et les gens, en plus d'avoir l'épreuve, ils ont cette culpabilité qui leur est tombée dessus, alors qu'ils n'ont commis aucun péché particulier. Job n'avait commis aucun péché particulier. Et d'ailleurs, il ne dit pas, « Ah, ça y est, Dieu m'a rattrapé, j'ai dû commettre un péché. » Non, sa réponse est, « Dieu m'a fait du bien, il a le droit de me faire du mal. Dieu m'a donné, il a le droit de reprendre. » Il n'est pas tombé dans une culpabilisation. C'est très important. C'est très important quand viennent les épreuves dans notre vie. Comment allons-nous réagir? Maintenant, il arrive, et dans la Bible, il est plusieurs fois question de gens qui avaient commis des péchés assez graves et que Dieu a permis qu'ils soient malades. Mais quand ils sont malades parce qu'ils ont péché, le Seigneur le leur montre. S'ils veulent savoir pourquoi je suis malade et si c'est à cause du péché, le Saint-Esprit les convainc de péché. Il ne joue pas cache-cache avec nous. Et quand il nous montre quel péché nous avons commis, quand nous le confessons, il nous pardonne. Et si la maladie est venue à cause de ce péché pour nous rappeler à l'ordre, quand la chose est réglée et abandonnée, la maladie s'en va. C'est tout le sens de Jacques chapitre 5. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens d'église. Qu'il loigne d'huile au nom du Seigneur. Et si le malade a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Et Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié pour qu'il ne pleuve pas sur la terre pendant 3 ans et demi. Ensuite, il a prié pour que la pluie revienne. Et sache que celui qui ramène un frère de sa mauvaise voie aura amené une âme de la mort et couvert une multitude de péchés. Tout le contexte est, je suis malade parce que j'ai péché, je confesse mon péché au responsable de mon église, Dieu me pardonne, l'église me reçoit dans sa communion, au moins d'huile au nom du Seigneur pour montrer ce pardon qui est accordé et la prière de la foi sauvera le malade. Mais il y a des maladies qui ne sont pas le résultat d'un péché, qui ne sont pas la punition d'un péché que nous aurions compris. Il y a des maladies parce que nous sommes des êtres humains, faillibles, et voués un jour à la mort. On va tous mourir de quelque chose. Et ça, ce n'est pas une punition de Dieu, c'est l'ordre des choses. Parce qu'après, il y a la résurrection avec un corps glorieux. La Bible dit que la terre entière souffre les douleurs de l'enfantement. Il y a la souffrance dans la terre, parmi les animaux et même parmi les plantes et parmi les hommes, parce que l'homme a péché. Et toute la terre entière est sous la servitude de la corruption. Et elle attend, dit la Bible, la manifestation de la gloire du Fils de Dieu, quand la terre sera recréée par le Seigneur dans sa perfection et que Christ aura réglé le problème du péché humain. Mais en attendant ce jour, nos corps vieillissent, s'affaiblissent, deviennent malades et ultimement, ils meurent et redeviennent poussière. Et c'est quelque chose qu'on doit accepter. Ce n'est pas ici le cas de Job. Job, il est dans une épreuve permise par Dieu, proposée par le diable, où les deux sont en train de regarder est-ce que cet homme va rester intègre. Alors, quelle est la réaction de Job? Alors, Job, il est rafraîchissant parce que s'il n'est pas en train de culpabiliser Dieu, il n'est pas en train de critiquer Dieu, il laisse libre cours à sa douleur. Et c'est important, quand on est dans l'épreuve, de pouvoir le dire aux autres. De pouvoir dire aux autres, je souffre. Vous savez, une des plus belles choses qu'on puisse faire pour nos frères et sœurs, c'est quand ils souffrent, leur rendre visite ou les appeler. Et savez-vous ce qui est très difficile quand les autres souffrent? Leur rendre visite et les appeler. Et vous savez pourquoi c'est difficile? Parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut leur dire. On a peur de pleurer avec eux et on ne veut pas trop pleurer parce que ça pourrait les décourager. On a peur de ne pas trouver les mots qu'il faut dire, ben écoute, c'est bien dommage. Ah non, je sens que ça ne le console pas. Mais je ne sais pas ce qu'il faut dire. Je prie pour toi, mais est-ce que vraiment je prie pour lui ou pas? Je n'aimerais pas être à sa place. Ça, c'est pas une chose à dire. J'aimerais pouvoir te remplacer dans ton épreuve. Ça, c'est pas vrai. Je ne voudrais pas le remplacer dans son épreuve. Qu'est-ce que je vais dire?
Ne dis tout rien.
Et voilà. Et souvent, c'est ne rien dire, juste partager le chagrin, mais manifester un intérêt. Et d'ailleurs, Job a trois amis qui viennent, et au début, on est vraiment touché de leur sollicitude, parce que versets 12 et 13 du chapitre 2, quand Job est dans cet état, trois de ses amis en entendent parler, en fait il y a un quatrième qui vient, mais il parle plus tard, trois de ses amis viennent, il s'assoit, et pour à s'associer à l'oriental, à sa douleur. C'est des gens dans certaine aisance, des collègues de Job, mais ils déchirent leur manteau, ils s'assoient dans la poussière. La Bible dit, ils jettent la poussière en l'air au-dessus de leur tête pour manifester, on est dans le deuil, et ils s'assoient en face de Job et restent là 7 jours et 7 nuits sans lui parler. Et on est dans l'admiration. Parce que des gens qui souffrent, quand on les interroge après leur souffrance, qu'est-ce qui vous a fait le plus de bien? Des gens qui sont venus chez moi, qui n'ont pas essayé de me faire la leçon, qui n'ont pas essayé de me dire « c'est pas grave, tu sais, tu vas t'en sortir », qui n'ont pas essayé de faire des plaisanteries pour me faire rigoler, qui sont venus et qui juste se sont assis à côté de moi et qui n'ont rien dit. Mais je sentais qu'ils partageaient ma détresse. Ce que les gens apprécient le moins sont ceux qui viennent, souvent Bible en main. Alors moi j'ai un verset à te lire, et tu vois ton problème il est comme ça, et voilà la solution est comme ça, et je vais prier que tu te repentes, et puis ça ira mieux, et je crois que j'ai fait mon devoir. Donc salut, je te dis à la semaine prochaine, quand je viens pour une autre étude, si ton cas ne s'est pas arrangé, tu entendras mes nouvelles. Ça n'apporte aucune consolation. La personne s'en va disant, j'ai lu la Bible, j'ai fait mon truc, je crois que j'étais bon là. Et pour la personne que vous avez voulu consoler, vous vous laissez dans un état lamentable. Parce qu'il dit, tout ce qu'il a dit avait raison, mais je sentais qu'il n'y avait aucune compassion de moi. Il ne comprenait pas ce que je vivais. Il pouvait pas, il ne cherchait même pas à le comprendre. Donc ces trois amis viennent et partagent un peu par leur compassion la douleur de Job. Mais Job réagit, et on peut le comprendre, à sa place on aurait fait la même chose que lui. La première chose qu'il fait, c'est qu'il maudit le jour de sa naissance. Tout le chapitre 3. Et s'écrit avec une poésie absolument sublime. Mais il parle de la nuit où il est né. Il parle du jour de sa naissance comme si le jour et la nuit s'étaient parlé. C'est de la personnification. Oh, que cette nuit où l'on a dit à ma mère, ça y est, tu as accouché d'un garçon, que cette nuit disparaisse, qu'elle soit comme si elle n'a jamais existé, etc. J'aimerais que le jour de ma naissance soit effacé du calendrier, du temps. Je voudrais que ce jour n'ait jamais existé. Vu ce que je vis, j'aurais voulu ne jamais être né. Quand on en arrive là, c'est qu'on est mal quand même. J'aurais préféré ne pas naître que de vivre ce que je vis. Et on peut mesurer la douleur que Job connaît, le désespoir, la tristesse qu'il connaît. Alors ces trois amis, dès qu'ils ont ouvert la bouche, ça commençait à se dégrader, la relation. Parce que le premier, Eliphaz, et puis bien sûr à l'oriental, le plus âgé parlait d'abord, après le second, après le troisième. Et ils ont eu plusieurs conversations, Job parlant avec eux, et ça dure à peu près tout le livre. Eliphaz dit, chapitre 4, si tu souffres Job, et tu souffres, c'est que quelque part tu es coupable. Il vaut mieux l'avouer maintenant, plutôt que de prétendre que tu es innocent. Parce que ceux qui sont coupables souffrent, et parallèlement, ceux qui souffrent sont coupables. Et ce n'est pas une loi ni dans un sens ni dans l'autre. Il y a des gens qui sont coupables, qui ne souffrent pas. Il y a des gens qui souffrent et qui ne sont pas coupables. Donc de lier culpabilité et souffrance immédiatement ensemble, pour celui qui souffre, c'est une des choses les plus blessantes qu'on puisse lui dire pour l'enfoncer un peu plus dans le désespoir. Et en plus, c'est faux. C'est faux. Chapitre 6, Job dit, écoutez, je vous ai compté comme mes amis, vous êtes venus en amis. Il dit, je suis innocent, Eliphaz. Dans mon âme et conscience, je suis innocent. Je ne suis pas en train de souffrir à cause de quelque chose que j'aurais fait de mauvais et que j'aurais caché. Et Job a entièrement raison. On sait pourquoi il souffre. Nous, on sait pourquoi il souffre. Lui ne sait pas pourquoi il souffre, mais il sait qu'il ne souffre pas à cause de ça. C'est pas pour avoir fait le mal et l'avoir dissimulé. Mais il dit, écoutez, ce que je vous demande, c'est votre compassion. Je ne vous demande pas de me donner raison. Je ne vous demande pas de me faire la leçon. Tout ce que je vous demande, c'est un peu de compassion. La compassion ne va pas me guérir, mais ça va me faire du bien. De penser que vous partagez un peu ma peine, même si vous n'avez aucune douleur, vous. Mais juste le fait que vous partagez ma peine, ça me ferait du bien. Mais ce n'est pas la peine de m'accuser, je ne suis pas coupable. Alors Bildad, le collègue, il dit, bon, mais dans ce cas, si tu es innocent, ton épreuve passera. Eh bien, ce qui sous-entend, c'est que ton épreuve passera rapidement. Voilà, je veux dire, si ça dure encore quelques jours, c'est que, tu vois, c'est la preuve un peu que tu es coupable. Mais ton épreuve passera, et puis tu te souviendras, voilà, j'étais mal, mais voilà, tout est passé. Parce que j'étais innocent, c'est peut-être un mauvais passage, mais tu ne vas pas rester comme ça si tu es innocent. Et il le dit dans le chapitre 8, il dit, si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leur péché. Mais toi, parce que les fils sont tous morts, n'est-ce pas? Il dit, ouais, tes fils sont tous morts. Peut-être ont-ils péché contre Dieu et Dieu les a tués. Toi, tu es malade. Tes fils, peut-être, ils ont eu ce qui est mérité. Mais si toi, tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement, alors il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure. Ton ancienne prospérité semblera peu de chose, celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Et le mieux, c'est que c'est vrai. À la fin du livre, il a beaucoup plus de prospérité, son innocence est reconnue, il vit deux fois plus longtemps qu'il a vécu avant l'épreuve. Ce que dit Bildad va absolument s'accomplir, mais pas ce jour-là. Là, ce jour-là, la douleur continue. Et puis, Job dit, je suis innocent, mais je ne suis pas juste. Il dit ça dans le verset 2 et 3. Il dit, comment l'homme serait-il juste devant Dieu? S'il voulait contester avec lui sur 1000 choses, il ne pourrait répondre à une seule. À lui, la sagesse et la toute-puissance. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et ça, c'est une leçon pour nous aussi. Dans la souffrance, nos amis peut-être auront tendance à nous culpabiliser. Ou peut-être à nous dire, tu n'as rien fait pour mériter ça, je sais comment tu es vraiment bien. Ils ne savent pas, peut-être ils ne savent pas tout. Mais si, quand bien même on pourrait dire, je ne pense pas que je suis coupable de quelque chose, je ne pense pas que ma douleur, que ma maladie ou autre, c'est à cause de mon péché, mais je suis bien conscient que je suis un pécheur. Je ne suis pas juste en moi-même. C'est important. Il dit, mes amis, je pense être innocent de ce de quoi vous m'accusez, mais je ne suis pas parfait, ça c'est clair. Et si vraiment, on voulait aller jusqu'au bout du bout, et Dieu devait m'appeler au tribunal, et me poser 1000 questions, je n'aurai pas toutes les réponses. Et si Dieu voulait trouver quelque chose pour me condamner, il n'aurait pas de difficulté. Il y a bien des choses que, voilà. Je ne suis pas en train de vous dire, je suis juste. Aucun homme n'est juste. Et là, on voit dans toute sa douleur, une pensée très claire et très juste. de la part de Job. Cette conversation est quelque chose de très profond. Alors Tsophar, le troisième, il dit, bon, écoute, Dieu est au-dessus de toi, quitte ton péché et ça ira mieux. Voilà. Dieu, il est puissant, toi, tu es hypocrite, quitte ton hypocrisie, crie à ton Dieu, il te rétablira, mais comme tu es parti pour te justifier, eh bien, reste malade, va. Sympa. Alors, pourquoi ces hommes qui semblent vraiment être pleins de compassion se tournent-ils contre Job et tapent-ils dessus? Pourquoi ils le blessent comme ça? Pourquoi ils... C'est parce que Job ne rentre pas dans leur cadre de pensée. Ils devaient penser, le pauvre Job, il est malade, sans doute il a fait une bêtise, son Dieu l'a frappé, on va montrer un peu de compassion, après on va lui faire quelques petits discours, écoute, tu vois, tu es malade, tu es mal, tu as tout perdu, tu as donc péché, et qui va nous dire, ben oui, c'est vrai, je n'osais pas vous le dire, mais j'ai fait un péché secret, et c'est pour ça que Dieu me tape dessus, et puis il va le confesser, puis on va le voir guérir, et on va partir, tout le monde sera content. Et donc, quand ils commencent à faire leur discours, Job dit, mais je ne suis pas coupable. Et là, toute leur sagesse vole en éclats. Là, ça ne va pas. Notre conviction, c'est que si tu souffres, tu n'es pas coupable. Tu dis que tu n'es pas coupable, maintenant tu mens. Voyez ? Je ne vous mens pas. Je suis sincère. Alors là, ça va beaucoup trop loin. Voyez ? Ils ne pouvaient pas imaginer avoir tort. Ils étaient convaincus. Ils avaient appris ça de leur père, de leurs ancêtres, de génération en génération. Pour eux, c'était la vérité. Et ils ne s'accommodaient pas du délai que ça ne pouvait pas être vrai. Alors, dans le chapitre 19, Job, il dit, je ne comprends pas ce qui se passe avec moi. Je ne comprends rien. Mais il dit, et là le Saint-Esprit l'éclaire d'une manière merveilleuse, sans qu'il ne le sache. Il dit, je sais une chose, mon Rédempteur est vivant. Rien que cette phrase est quelque chose d'absolument incroyable. Parce que Job, à cette époque-là, on n'avait pas une conception très définie de ce qu'est la rédemption. Comme nous aujourd'hui, on sait ce qu'est la rédemption. À l'époque, quand on faisait un péché, on faisait un sacrifice. On offrait le sang d'un agneau au pied de l'autel, on faisait brûler l'animal sur l'autel. Job lui-même faisait des sacrifices pour couvrir les péchés de ses fils. Si jamais ils avaient péché, il faisait assez couramment. Mais là, Dieu lui donne un ray de lumière, il comprend, mon sacrifice d'animal ne va jamais souffrir vraiment à couvrir mon péché. J'ai besoin d'un rédempteur. Ce rédempteur est quelqu'un, c'est une personne. Et il dit, je sais que mon rédempteur est vivant. C'est énorme. Il y a quelqu'un qui va me racheter de mon péché, qui va faire ce que mes sacrifices ne pouvaient jamais faire pour moi. Je sais qu'il est vivant. Je sais non seulement qu'il est vivant, mais qu'il se lavera le dernier sur la terre. Il va être le grand vainqueur. Non seulement ça, je sais que grâce à lui, moi aussi, je vais ressusciter. Et je sais que je le verrai avec mes yeux. Je vais un jour mourir, mais je vais ressusciter avec mes yeux, je verrai ce Rédempteur. Et je sais quand je le verrai, il me sera favorable. Comment 2000 ans avant Jésus-Christ, Job pouvait-il avoir accès à toute cette révélation ? Comme Jésus a dit à Simon-Pierre, tu es heureux, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Et alors ça, c'est le passage le plus sublime de tout le livre de Job. Il croit à la résurrection. Et nous aussi, devant l'épreuve de santé, chacun d'entre nous, on va arriver devant un jour notre ultime épreuve de santé. C'est-à-dire l'épreuve dont nous ne sortirons pas, on est bien d'accord. La dernière, la vallée de l'ombre de la mort. Quelle sera notre attitude? Je suis en attente de la résurrection. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Ou est-ce que c'est la fin de la manège, j'ai fait mon dernier tour, je descends, on m'enterre comme un chien et c'est terminé. Job, dans sa douleur, dans sa tristesse, dans son désespoir, il sait qu'un jour, il ressuscitera avec un corps glorifié à cause d'un rédempteur. Et si lui l'a cru, nous on peut le croire, on a beaucoup plus de lumière que lui, on a beaucoup plus d'informations. Nous on connaît le nom du Rédempteur, c'est Jésus-Christ. On sait ce qu'il a fait pour nous sauver, il est mort sur la croix, on sait qu'il est ressuscité. Job, il ne connaissait pas la résurrection du Rédempteur, il n'en connaissait même pas sa venue. Et pourtant, il savait que ça finirait bien. Et nous alors, à combien plus forte raison? Alors finalement vient un quatrième homme, un homme qui apparemment était là, mais il n'a pas été mentionné au début. Il est resté là, il a écouté toutes ces conversations. Ces trois amis qui s'acharnent contre le pauvre Job. Job qui se défend contre eux, mais comme il est malade, c'est pas très crédible. Il lui enfonce encore plus le clou, et lui, il essaie de se défendre. Et finalement, il lui dit, bon écoutez, je suis beaucoup plus jeune que vous autres. Donc, en Orient, on ne parle pas quand on est jeune, on laisse parler les aînés d'abord. Et quand on voit qu'ils n'ont plus rien à dire, les jeunes peuvent parler. Il dit, bon, je vous ai tous écoutés, vous avez tous parlé, vous semblez tous avoir raison, mais vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Vous, vous accusez Job. Job, il ne reconnaît pas sa culpabilité. C'est un dialogue de sourds. Alors moi, depuis quelque temps, ça bouillonne dans mon cœur. J'ai des choses à dire, il faut que je les dise. Et lui, il parle plutôt bien. Il dit, écoutez, Dieu est insondable. Personne ne peut comprendre ce que fait Dieu. Personne ne peut comprendre pourquoi Dieu fait ce qu'il fait. Vous avez tous des théories. Vous vous dites que Job souffre parce qu'il a péché. Il dit qu'il n'est pas coupable de selon vous l'accuser. Mais aucun de vous, et moi non plus, on ne sait pas ce que Dieu fait. Il avait raison. Il ne comprenait pas ce que Dieu faisait dans cette histoire. Et donc, ne jugeons pas Dieu. Ni en bien, ni en mal. Je veux dire, ce qu'il fait est bien, mais ne le jugeons pas mal. Ne le critiquons pas, parce qu'on ne peut pas le comprendre. C'est ce qu'il dit au chapitre 37. Alors, il parle pendant un bon petit moment. Il met un peu les choses en règle, et puis Dieu intervient dans la conversation. Il parle à Job directement. Et puis il parle de ses trois amis, et même de Job, il dit, attendez. Pourquoi vous parlez là, vos discussions, c'est un peu comme de la fumée, vous obscurcissez mes desseins. Dieu dit, j'agis selon un plan, je suis engagé dans une démarche. Et vos discussions, ça met un peu de fumée là-dedans. On ne comprend rien. À ce que vous dites, ce n'est pas dans les plans. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Il dit ça à Job, il dit ça à ses trois amis. Vous avez tous raisonné un peu à côté. Et donc Dieu dit à Job, alors on dit, mais quand Dieu commence à parler, on dit, bon, avec tout le respect que je dois à mon Créateur, à mon Dieu, mais de quoi parle-t-il? Il est hors sujet, il ne me parle même pas de la souffrance. Il dit à Job, où est-ce que tu étais quand j'ai créé la terre? Qu'est-ce que tu connais sur le circuit du vent et de l'eau? Que connais-tu sur les animaux marins? Explique-moi comment ça marche, le soleil, la lune, tout ça. Explique-moi comment j'ai mis les étoiles en place. Tu peux m'expliquer, Job? Tu peux m'expliquer, toi qui as l'air de savoir tant de choses? Explique-moi. Est-ce que tu sais, etc. Et le Seigneur lui donne toute une foule de choses comme ça. Et Job, explique-moi. Et Job, explique-moi, 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 explique-moi. Et c'est accablant, c'est comme des coups de massue sur la tête du pauvre Job. Alors, Job répond, finalement, Job 39, parce que Dieu arrête pendant un court instant. Et Job dit, voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. Deux fois, je n'ajouterai rien. Pauvre Job, il dit, je ne suis qu'une petite créature. Comment tu veux que je réponde à ces questions? Je n'en ai pas la moindre idée. Je n'en sais rien. Tu es le Créateur. Je suis tout petit à côté. Je suis tellement limité. Je me tais. Je n'ai plus rien à dire. Alors, Dieu reprend. Et verset 3, Dieu dit, et est-ce que tu veux anéantir aussi ma justice? Parce que Job avait dit, dans ses raisonnements, et on peut le comprendre, il disait, bon écoutez, moi je suis innocent, je sais que je suis innocent, mais est-ce que vous croyez que je pourrais attraper Dieu pour lui parler face à face? J'essaie de lui dire, viens à ma rencontre, il ne vient pas. Je crie vers lui, il ne me répond pas. Si je pouvais le rencontrer et je lui expliquerais les choses, il verrait bien que j'ai raison. Mais il se dérobe, il ne veut pas me parler, voilà. C'était pas très bien ce qu'il a dit. On comprend la douleur. Mais Dieu lui revient là-dessus. Pour avoir raison, tu anéantirais ma justice? Tu te prends pour qui, Job? De dire que je me dérobe, toi, si tu pouvais me parler, tu aurais raison, mais comme je me dérobe, tu ne peux pas me trouver. Et puis, Job dit, même si je le trouvais, même si je donnais 10 arguments, 100 arguments, il me casserait quand même, il dirait, j'ai raison parce que je suis Dieu, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? On sent toute la frustration de Job. Et Dieu dit, attends, tu te prends pour qui? Est-ce que tu as un bras comme celui de Dieu? Dieu dit, me condamneras-tu pour te donner des droits? Est-ce que devant le tribunal, je dois être coupable pour que toi tu puisses avoir raison, Job? C'est comme ça que tu le vois, Job. Alors Dieu le reprend sur ces choses-là. Il parle d'autres animaux qu'il avait créés. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ces animaux fonctionnent, comment je les ai créés, comment ils agissent? Pourquoi Dieu fait-il tout cela? C'est simplement pour nous mettre à notre place. Il a le droit de nous mettre à notre place. Il est Dieu. Parfois, entre nous, on dit, ah ben ça là, hein, je l'ai mise à sa place. C'est le côté méchant. Hein. Je l'ai mise à sa place, ça veut dire, je suis là, et je l'ai mise à sa place qui est là. Hein. Mettre quelqu'un à sa place, c'est mettre bien en dessous de moi. J'ai quand même raison. Il faut bien qu'elle comprenne qu'elle a tort. Mais quand Dieu nous met à notre place, c'est parce que nous, on est monté trop haut. Il est obligé de dire, tu es créature, tu te mets là, tu ne comprends pas, on ne me juge pas, ne me critique pas, ne me fais pas un procès d'intention, dis que tu ne comprends pas, ça suffit, tu n'as pas besoin de dire plus. Et Dieu dit cela, alors pauvre Job, Job répondit, chapitre 42, « Je reconnais que tu peux tout, que rien ne s'oppose à tes pensées. » Alors, il cite Dieu. « Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ?» Il répond lui-même, « Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. » Alors, il dit à Dieu, « Écoute-moi et je te parlerai, je t'interrogerai, et tu m'instruiras. » Job dit, maintenant, c'est moi qui pose des questions. Et c'est toi qui m'instruis. Parce que moi, je ne sais rien et toi, tu sais tout. C'est mieux que ce soit toi qui m'enseignes. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Et là, c'est la fin de l'épreuve. La fin de l'épreuve. Dieu demande une dernière chose à Job. Dieu s'adresse à ses 3 malheureux amis qu'il avait condamnés, qui avaient dit, « Ouais, si tu souffres, c'est que tu as péché. » Le Seigneur dit, « Vous n'avez pas bien parlé de moi. » Et là, tout à coup, Dieu encourage et restaure Job. Il dit, « Vous avez mal parlé de moi. » Contrairement à mon bon et fidèle serviteur Job. C'est curieux. Le Seigneur vient de reprendre Job. Job vient vraiment de s'humilier. Et Dieu dit, hein, mon serviteur Job, c'est quand même le meilleur. Et il a bien parlé de moi et vous avez mal parlé de moi. Alors Dieu dit, bon, vous autres là, je vais peut-être vous pardonner si mon serviteur Job prie pour vous. Si lui, il intercède auprès de moi pour vous, peut-être je vous pardonnerai pour honorer mon serviteur Job. Alors évidemment, Job, il prie, Seigneur, pardonne à mes trois amis qui ont mal parlé de toi, qui m'ont accusé sans raison, etc. D'accord, je leur pardonne parce que toi, tu m'as demandé, Job. C'est magnifique. Comment Dieu a pris position pour Job devant ses amis. Comment il a restauré. Et ensuite, il a guéri de sa maladie. Ensuite, il lui a redonné 10 enfants. Ça lui en faisait 20, 10 au ciel et 10 sur la terre. Et puis, il a doublé la mise pour tous ces animaux, 2 fois plus de fortune. Et comme tout était doublé, la Bible dit qu'il a vécu 140 ans de plus. Ce qui sous-entend, je ne peux pas le prouver, mais ce qui sous-entend que son épreuve est arrivée à l'âge de 70 ans. Et après son épreuve, il a vécu 2 fois plus longtemps qu'il avait vécu jusque-là, avec 2 fois plus de choses. Voyez ? Mais autant d'enfants, pas 20 enfants, 10 enfants, parce que les 10 premiers comptent. Et la fin de l'épreuve. Quelle est la leçon quand on a une pluie d'épreuves? Bien sûr, il faut examiner son cœur. Il faut examiner son cœur. Et Job examinait son cœur continuellement. Ce n'est pas genre, ah, c'est vrai, je n'ai pas fait un sacrifice depuis 3 ans et j'ai accumulé 3 tonnes de péché. Non, chaque fois qu'il sentait quelque chose de pas, il faisait un sacrifice. Il était à jour avec Dieu. C'est pour ça qu'il disait, écoutez, je pense que je suis innocent. Je n'ai rien fait pour mériter ces épreuves-là. Nous devons penser aussi qu'on n'a pas à se culpabiliser. Si le Saint-Esprit nous convainc de péché, confessons-le, abandonnons-le, mais ne nous culpabilisons pas le pourquoi. On voit quand ils se sont aventurés, pourquoi tu souffres, Job? Chacun y allait de sa théorie. Mais aucun n'avait raison. Aucun ne pouvait imaginer que c'était une histoire entre Dieu et Satan. Impossible d'imaginer une telle chose. Donc nous devons nous garder de théoriser pourquoi je souffre ou et surtout pourquoi mon frère ou ma sœur souffre. On n'en sait rien. Et sauter à des conclusions peut être terrible pour la personne qui souffre et terrible pour notre manière de le regarder. Et puis, compter sur Dieu et comme Job, relativiser les choses. Je ne me suis pas plaint quand Dieu m'a fait du bien. Pourquoi me plaindrais-je si Dieu me permet de passer par un mauvais moment? Je n'ai rien eu quand je suis né nu. Quand je partirai comme je suis venu. Dieu m'a donné beaucoup de choses pendant longtemps. Comment je pourrais le critiquer de m'en enlever? Pourquoi je le critiquerais? Et pour le reste, je ne sais pas pourquoi Dieu permet cela, mais je sais qu'il m'aime et je vais lui faire confiance. Et comme Job, de toute façon, je sais que je vais ressusciter, je verrai mon Rédempteur et il me sera favorable. Mes amis, c'est dans cette pluie d'épreuves qu'on voit la main de Dieu. Et quand on voit l'issue de l'épreuve de Job, on voit un Job qui connaissait l'Éternel beaucoup mieux qu'avant. Avant, sa relation avec Dieu, c'était « Je ne veux pas qu'il m'arrive une tuile. Je fais tout ce qu'il faut pour que tout aille bien entre nous. » Mais à la fin de son épreuve, il connaît Dieu personnellement. Parfois, les enfants sont comme ça. Papa et maman, oui, je les aime, enfin, surtout, je veux que ça se passe bien, que je n'ai pas de fessées. Ce qui me préoccupe le plus, c'est que je n'ai pas de fessées. Les aimer et ne pas les aimer, ça m'est entièrement égal, je ne veux pas souffrir. C'est bien de ne pas vouloir le fesser, mais on ne peut pas dire que ce soit une relation profonde. Alors, quand on, avec ses parents, une relation profonde, qu'on les aime vraiment, eh bien, on obéit différemment. On n'obéit pas simplement pour ne pas être attrapé. On obéit parce qu'on les aime. Et Dieu, c'est la même chose. C'est une relation profonde et personnelle avec lui qu'il recherche. Et Job a acquis cette relation à travers son épreuve. Et c'est bien peut-être là sa plus grande richesse. Sa vie avec Dieu, après ça, c'était tout autre chose qu'avant. Prions. Notre Dieu et Père, merci pour le témoignage de Job conservé pour nous dans ta Bible. Seigneur, tu es tellement souverain, tellement au-dessus de toutes choses, que même quand Lucifer a proposé ce marché sur aux dépens de Job, tu l'as permis parce que tu savais à l'avance tout le bien qui en résulterait pour ton serviteur dans sa relation avec toi. Tu savais tout le bien que tu lui ferais suite à l'épreuve. Et pour Job, sans doute, il était d'accord que ça avait valu la peine de passer par un tel moment, vu l'intimité qu'il a acquise avec toi. Aide-nous, quand tombe sur nous une pluie d'épreuves, de comprendre l'intérêt que peuvent avoir ces moments d'épreuve. Ne pas t'en vouloir, ne pas t'accuser, ne pas devenir amer, ne pas culpabiliser, mais simplement accepter en attendant de comprendre et te laisser faire ton programme dans notre vie. Qu'il en soit ainsi pour la gloire de Jésus-Christ. Amen.